Bonjour à tous et bienvenue sur Radio J. Il est 9h. Nous sommes ensemble en ce vendredi 3 mai pendant une heure jusqu'à 10h. Je vous souhaite une excellente matinée à vous.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
Et au sommaire de cette heure à venir, un jour, une synagogue en compagnie de Maya Brodsky qui nous emmène en Israël ce matin. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure la ville et la synagogue surtout que nous visitons dans un jour, une synagogue, c'est à 9h10. Et puis à 9h20, question de société et de judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin et nous parlerons de Yom HaShoah un peu en avance. Évidemment, vous le savez, la journée du Yom HaShoah sera lundi. Et puis à 9h35, je vous le disais à l'instant, Bété Avon, Magali, Mag en cuisine, la spécialiste de la pâtisserie, nous donnera toutes les astuces et tous les secrets pour faire une belle challah et en forme de clé en ce moment. Et on verra pourquoi. Et puis enfin, à 9h45, c'est le commentaire de la paracha avec le rabbin Mendel Nissenbaum.
Léa Moscona. Radio J.
Et tout de suite, c'est l'essentiel de l'information avec le journal présenté par Etanit Belaïch. Etanit, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
210e jour de guerre, Israël attend toujours la réponse du Hamas à sa proposition d'accord pour un cessez-le-feu à Gaza.
Les médiateurs égyptiens et qataris ont reçu des signaux clairs indiquant que la réponse du groupe serait négative selon le média libanais Al-Akhbar. Raison pour laquelle les pourparlers se sont poursuivis ces dernières 48 heures pour éviter une rupture des contacts. Le journal affirme également que le Caire a obtenu une promesse israélienne de reporter le début des opérations à Rafah au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
Et un nouvel otage est mort en captivité.
Dror Or, 49 ans, qui faisait partie des Israéliens pris en otage par le Hamas au kibboutz de Be'eri. Il aurait été tué dès le 7 octobre, c'est ce qu'a annoncé hier soir son kibboutz. Son corps est donc toujours détenu à Gaza. Yonat, son épouse, a également été assassinée dans la maison du kibboutz et leurs deux enfants, Noam, 17 ans, et Alma, 13 ans, ont été kidnappés mais relâchés en novembre lors du premier accord de cessez-le-feu signé par Israël et le Hamas.
Sur le front nord, cette nuit, Israël aurait frappé en Syrie, à Damas. 8 soldats syriens ont été blessés.
C'est ce que rapportent les médias d'État syriens, sans confirmation pour l'instant du côté d'Israël. Cette frappe visait une base syrienne utilisée par le Hezbollah. Par ailleurs, Tzal a ciblé plusieurs membres du groupe terroriste repéré dans des bâtiments utilisés pour attaquer hier la région du Mont Dov en Israël.
La France propose un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.
Il comprendrait le retrait des terroristes à une distance de 10 km au nord du fleuve Litanie et le démantèlement du Hezbollah près de la frontière. Paris propose aussi que l'armée libanaise soit déployée dans la zone. Les discussions portent également sur la démarcation de la frontière terrestre entre Israël et le Liban.
En France, les manifestations anti-israéliennes se poursuivent aux États-Unis, obligeant hier le président américain à s'exprimer.
Les manifestations sur les campus ne m'ont pas emmené à reconsidérer ma politique concernant Gaza. C'est ce qu'a indiqué Joe Biden, qui a estimé que l'ordre devait prévaloir. Plus de 2000 personnes ont été interpellées depuis le 17 avril sur une trentaine de campus. On écoute le chef d'État américain.
Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Dissent is essential to democracy, but dissent must never lead to disorder or to denying the rights of others so students can finish the semester and their college education. There's the right to protest, but not the right to cause chaos.
Joe Biden, dont on écoutera la traduction dans le prochain journal, il s'exprimait hier depuis la Maison Blanche.
En France, on l'apprenait hier, Sciences Po annonce la fermeture de ses principaux locaux à Paris.
Après un débat interne sur le Proche-Orient hier matin qu'ils ont jugé décevant, mais sans surprise, les étudiants du comité Palestine de Sciences Po Paris ont de leur côté annoncé hier soir le début d'une grève de la faim en solidarité, disent-ils, avec les victimes palestiniennes. Écoutez la réaction du président de l'Union des étudiants juifs de France, Samuel Lejoyeux. Il était ce matin au micro de Christophe Barbier.
Moi, je crois que c'est une bien mauvaise façon de défendre la cause palestinienne. Il y a une autre façon qui peut être faite de le faire, justement par le dialogue, justement par le débat, justement en se disant, il y a une situation qui est terrible. Et c'est vrai, elle est terrible depuis le 7 octobre, elle est terrible évidemment à cause du Hamas. Mais il y a quand même matière à discuter. Et à la limite, que les étudiants, qu'il y a un mouvement étudiant autour de ces questions-là, pourquoi pas ? Mais oui, moi, je crois que ça doit se faire par le dialogue.
Samuel Lejoyeux, la mobilisation qui ne faiblit donc pas, puisqu'une grande action pro-palestinienne est prévue aujourd'hui à 14h sur la place du Panthéon. De son côté, l'UEJF organise une table ronde place de la Sorbonne pour débattre avec les étudiants qui le souhaitent de 10h à 18h.
Guillaume Meurice a été suspendu par Radio France après avoir réitéré ses propos sur Benjamin Netanyahou. Il l'avait nazifié.
Il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur a dit « c'est bon ». C'est ce qu'avait déclaré le chroniqueur sur France Inter le week-end dernier, en référence au récent classement sans suite d'une plainte à son encontre qu'il accusait d'antisémitisme. L'humoriste est aujourd'hui dans l'attente d'une éventuelle sanction qui pourrait aller jusqu'au licenciement.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 26 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et c'est l'heure de retrouver en Israël notre correspondante Pascal Sunshine au micro d'Etanit Belaïch.
Bonjour Pascal, ce matin on revient sur cette nouvelle dégradation des relations entre Israël et la Turquie. Ankara qui a annoncé hier la suspension de ses relations commerciales avec Jérusalem.
Oui, cela avait commencé le mois dernier par un embargo partiel. Depuis hier, ce sont toutes les relations commerciales de la Turquie avec Israël qui sont à l'arrêt. Le ministère du Commerce d'Ankara a confirmé la suspension de toutes les transactions import et export avec Israël sur tous les produits sans exception. Une décision motivée par la guerre d'Israël contre le Hamas, alors que la Turquie accuse Israël de bloquer l'aide humanitaire qu'elle veut envoyer à Gaza. Ankara assure d'ailleurs que les marchandises destinées à la population de Gaza ne seront pas affectées par son embargo contre Israël. Cette mesure inédite est en tout cas loin d'être symbolique. Lors de la dernière crise entre la Turquie et Israël suite à la flottille de 2010 et le ferry Mavi Marmara affrété par des islamistes turcs pour forcer le blocus de Gaza, Ankara avait réduit ses relations diplomatiques, même maintenu l'intégralité de ses échanges commerciaux avec Israël. Il avait fallu attendre 12 ans pour que le président Erdogan accepte de normaliser ses relations avec Jérusalem et en particulier de limiter son soutien affiché au Hamas. Mais depuis le début de la guerre, la tendance est inversée. Le président turc a renoué avec sa rhétorique violemment anti-israélienne et il a de nouveau accueilli les responsables du Hamas, que la Turquie ne considère d'ailleurs pas comme une organisation terroriste. Concrètement, les échanges commerciaux avec la Turquie sont importants. En 2023, ils s'élevaient à près de 7 milliards de dollars selon les chiffres d'Ankara et à 4 milliards 200 millions de dollars selon ceux du Bureau des statistiques israéliens, en tout cas avec une réduction des transactions déjà amorcée au quatrième trimestre dernier avec le début de la guerre. Cette balance commerciale, c'est pour les trois quarts des importations par Israël qui achètent à la Turquie des produits alimentaires, des matériaux de construction, des machines et aussi des automobiles, notamment des marques Hyundai et Toyota, produites en Turquie. Hier, le ministre israélien des Affaires étrangères a réagi en accusant le président Erdogan de se comporter en dictateur, de fouler aux pieds les intérêts de son peuple et d'ignorer ses engagements commerciaux internationaux, a déclaré Israël Katz. Il faut maintenant qu'Israël trouve d'autres sources d'approvisionnement et d'autres fournisseurs qui devraient se révéler assez complexes, sachant que la circulation des marchandises en provenance de Chine et d'Asie du Sud-Est est déjà perturbée par les attaques des milices houthis pro-iraniennes en mer Rouge. Erdogan a donc choisi de revenir à son soutien au Hamas. Le président turc, qui rêve toujours de reconquérir une hégémonie régionale, est pris entre les régimes arabes sunnites pro-américains et l'influence de l'Iran chiite. Il espère que son hostilité à Israël lui fera gagner des points. Une nouvelle flottille d'ailleurs est en cours de préparation et la Turquie a aussi annoncé qu'elle rejoignait l'Afrique du Sud dans sa procédure contre Israël à la Cour internationale de justice.
C'était donc notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, que vous pourrez retrouver dans le Grand Journal cet après-midi à partir de 14h.
Merci Tanit, et quant à vous, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le rappel des titres.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Nouveau, ouverture d'un collège bilingue à Boulogne pour la rentrée, le Collège Tikva. Renseignements au 01 49 23 73 41 ou sur collegetikva.com. Vous écoutez
Radio J.
Radio J. Radio J.
Excellente matinée à l'écoute de Radio J. Restez avec nous dans un instant, un jour, une synagogue. Mais tout de suite, je vous dis un mot du temps. Il fait 11 degrés en ce moment à Paris. Le temps est assez clément. Hein. 17 degrés cet après-midi et un peu de pluie. Et oui, la pluie est annoncée pour aujourd'hui, demain et après-demain. Ça, ce sont les mauvaises nouvelles. Mais les températures restent quand même plutôt agréables. Allez, nous partons en Israël avec 22 degrés en ce moment à Tel Aviv. On attend 25 degrés cet après-midi sous un beau soleil. Et puis, ce sera à peu près la définition de la météo pour les jours à venir également à Tel Aviv. À Jérusalem, c'est un peu plus frais. Ça ressemble un peu au temps de Paris pour les températures. Hein. 17 degrés également à Jérusalem, 23 degrés cet après-midi. Et là, par contre, il y a pas mal de soleil. Le ciel est vraiment dégagé pour les prochains jours.
Radio J. Le 9-10, Léa Moscona.
Et en ce qui concerne les transports en commun, vous avez pas mal de perturbations ce matin, notamment au niveau des RER. RER C, D, E sont au ralenti ce matin. Et puis, les Transiliens J, P, R également. Voilà donc pour le transport. Rien d'autre est à signaler ce matin sur ces transports en commun.
Radio J, le 9-10, Léa Moscona.
HM Melech, HM Malach, HM Imloch, Leolam Vaed. HM Melech, HM Malach, HM Imloch, Leolam Vaed. HM Melech, HM Malach, HM Imloch, Leolam Vaed. HM Melech, HM Malach, HM Imloch, Leolam Vaed.
Et voilà un joli cœur d'homme pour un jour une synagogue que nous présente Maya Brodsky. Bonjour Maya.
Boker Tov, Léa.
Alors je ne révèle pas la destination, c'est vous qui allez nous expliquer.
Oui, tout à fait. Porté par la beauté de ses voix, nous partons à Jérusalem pour découvrir la grande synagogue au cœur de la ville. Il faut savoir que le projet a démarré en 1923, où il était évident qu'il fallait un hommage à la communauté. Et la première pierre, finalement, n'a été posée qu'en 1969. Ce ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y avait rien, puisqu'il y a eu une première synagogue. Ensuite, il y a eu l'Héral Shlomo qui a été construit, mais où se trouvait le rabbinat, d'ailleurs, jusqu'en 1966, avec une petite synagogue, avec un Aron HaKodesh qui venait de Padoue. Bon, évidemment, la communauté grandissant, il a fallu plus grand. Et donc, la première pierre sur un terrain adjacent a été posée en 69 et construite par l'architecte Alexander Friedman pour avoir une inauguration en 1982.
Alors là, voilà. Maya, la pierre de Jérusalem est la star de cette synagogue.
Sublime. Elle est extraordinaire. Et quand on arrive devant cette choule, nous sommes en face d'un immense rectangle qui part vers le ciel, de toute beauté. Et nous avons pour entrer la chance de pousser les portes d'un portail avec des carreaux de verre rouge et bleu. Et ce qui est magnifique la nuit, parce qu'il y a la lumière qui passe à travers, et c'est de toute beauté. Quand vous rentrez, tout de suite, vous êtes saisi par une pièce circulaire avec des vitrines tout le long et une collection de mezuzot du monde entier. Le sol est en marbre avec un graphisme qui dessine une menorah au sol. Donc c'est blanc et marron. Et puis si vous avancez de quelques pas, vous rentrez dans cette choule qui est iconique puisque c'est quand même la grande choule de Jérusalem.
Oui, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que d'abord elle est grandiose, hein, donc la taille est immense. Et puis le style,
le style beau.
Ah, c'est ça, voilà.
Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire avec un peu d'art déco aussi, puisque quand vous rentrez, la première chose qui va vous saisir, C'est un lustre qui fait 3 tonnes. Et alors ce lustre, pour essayer de le décrire...
3 tonnes, c'est une façon de penser ou c'est une façon de parler, je veux dire, ou c'est vrai?
Non, c'est la réalité.
Oh, c'est extraordinaire.
Et en fait, pour essayer de vraiment le faire visualiser aux auditeurs, vous pouvez imaginer 3 bobines qui s'emboîtent, c'est-à-dire qu'une petite, une moyenne, une grande. Après, il y a 12 coupelles avec 12 lampes à l'intérieur. Et ensuite, vous avez comme un tourniquet, en fait, avec des franges de métal qui descendent pour s'accrocher au plafond. Voilà. C'est pas évident à décrire parce que c'est très cylindrique. Mais en même temps, ça part de très gros et ça diminue plus ça descend.
Oui. Alors, voilà. Donc, ce que je voudrais marquer quand même, c'est à la fois la modernité de cette architecture, mais ça n'a pas perdu en chaleur, ça n'a pas perdu on sent vraiment une ambiance particulière.
Absolument, Léa. Mais alors, surtout, ce qui donne énormément de chaleur, c'est les vitraux.
Les vitraux.
Et surtout, alors ce qui était intéressant à mentionner, c'est que les vitraux ont été faits par une femme. Souvent, ce sont des hommes. Donc là, on le note.
Oui, hein, voilà. C'est tout à fait absolument notable et remarquable. Et ils sont d'une grande beauté.
Tout à fait. Et c'est une artiste suisse qui a fait ces vitraux. Elle représentait toutes les scènes de la vie juive. Et quand vous allez devant la Rona Kodesh, qui lui aussi est en marbre et en pierre, vous avez au-dessus de la Rona Kodesh, trois petits paliers, et ensuite vous avez 5 fines colonnes parsemées entrecoupées de vitraux dans les rouges et dans les bleus, et c'est juste... Moi, je suis en admiration.
Oui, parce qu'il y a toute une scène, des scènes décrites, et puis toute la palette de couleurs est utilisée dans ces vitraux qui sont en hauteur, donc je ne sais pas de combien de mètres, mais enfin, c'est vraiment immense.
Très grand, hein,
c'est au-dessus de la porte d'entrée, enfin, du portail d'entrée.
C'est immense, parce que ça a été fait en souvenir du Second Temple. Donc le Second Temple était quand même quelque chose d'immense. Donc, en fait, c'est à l'image du Second Temple, d'où les dimensions. Voilà. Et comme vous avez aussi à côté, avant ce qui a été construit, les Halles Shlomo, bien il fallait quelque chose d'encore plus vers le ciel, donc ils ont fait encore plus grand.
Oui, c'est majestueux. En fait, je crois que c'est le terme qui définit bien cette synagogue. Elle est majestueuse,
tout
finalement.
Tout à fait. Et alors, en parlant de vitraux, dans le bâtiment adjacent, il y avait des vitraux absolument magnifiques aussi d'un artiste qui s'appelait Hillman, qui est un artiste anglais que nous retrouverons dans d'autres Choule à Londres, et vraiment il y a un musée de judaïque aussi. Il faut savoir que le financement de cet magnifique endroit a été fait par un Britannique qui s'appelle la famille Wolfson, et ils ont donné le nom d'ailleurs au musée qui se trouve juste à côté.
Alors, petite question, c'est grand, on imagine il y a deux étages,
il y a l'étage des femmes.
Il y a l'étage.
Voilà. Et alors, ce qui est très joli, c'est le rappel. Vous savez, sur le portail, vous avez des carreaux de verre rouge et bleu. Quand vous rentrez tout le long de l'étage des femmes, vous avez, pareil, des petits carrés rouge et bleu. Et le sol, évidemment, c'est du marbre. La Rona Kodesh, un peu art déco, complètement. Les fauteuils, les bancs sont en bois d'olivier avec des petits coussins rouges. Et la forme est un petit peu octogonale au niveau de l'étage des femmes.
Est-ce qu'il y a plus qu'une synagogue à l'intérieur de cet édifice qui est quand même assez grand?
Comme je vous le disais, Léa, en fait, vous avez la première salle avec les mésozoïtes, donc c'est une salle d'exposition. Après, vous avez cette immense choule. Voilà. Et vous avez aussi une petite ashkénaze. Et donc, vous avez aussi une petite choule qui est séfarade. Et là, il y a ça permet aux différents rites,
de
pouvoir se partager l'endroit.
Alors oui, c'est vrai qu'elle est très colorée à l'intérieur. On a néanmoins ce tapis rouge qui marque le cheminement hein, pour accéder aux places, des places qui sont nombreuses. Et ça, là, c'est du bois assez foncé qui est recouvert de velours rouge également.
Ça donne
un côté assez princier, assez royal, je dirais presque.
Et alors, on peut contenir à peu près 1500 personnes, 1000 pour les hommes et 500 pour les femmes.
Et ben voilà une belle synagogue.
C'est vraiment au niveau architecture de toute beauté.
Eh bien, merci infiniment, Maya, de nous avoir donné un petit aperçu de cette grande synagogue. D'ailleurs, c'est son nom, hein, la grande synagogue de Jérusalem. Merci à vous. Shabbat shalom et à très vite sur Radio J.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio J. Radio J. Le 9-10. Léa Moscona.
Question de société et judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour Léa.
Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et un peu en avance, eh bien, nous allons parler du Yom HaShoah. Le Yom HaShoah, cette année qui a un sens, il y a un ressenti, nous avons un ressenti en tout cas tout, un peu particulier évidemment dans la situation dans laquelle nous sommes depuis près de 7 mois maintenant.
Exactement, alors faut-il rappeler cette journée de commémoration du souvenir de la Shoah va commencer dimanche soir à venir et durer tout au long de la journée de lundi, et c'est la journée du souvenir, de la mémoire de la Shoah. On la commémore chaque année depuis 1951, en tout cas pour la date institutionnelle telle qu'elle a été retenue pour ces commémorations à cette date, qui correspond au temps de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et effectivement, on peut se demander quel ressenti, quel sens particulier peut avoir ce Yom HaShoah dans les mois qui suivent le 7 octobre. Moi, j'aimerais partager avec vous et avec les auditeurs un sentiment, une expérience qui est la mienne en tant que rabbin, véritablement au quotidien, dans le sens où évidemment le rabbin c'est un enseignant, c'est aussi un accompagnant de la vie de nombreux juifs, de nombreuses familles juives, dans les moments heureux comme dans les moments qui vont être plus pénibles, plus compliqués. Et le fait est que dans les mariages qui ont été célébrés depuis le 7 octobre, dans les enterrements, les obsèques qui ont eu lieu depuis le 7 octobre, pas un moment, pas une cérémonie ne s'est faite sans évoquer à la fois le souvenir du 7 octobre et le souvenir de la Shoah. Mmh. Et on a quelque chose dans les enterrements aujourd'hui, par exemple, de très particulier, c'est le fait que les Juifs qui meurent aujourd'hui souvent étaient enfants dans les premières années de la guerre, et se sont construits, se sont constitués avec l'idée des bruits de bottes, avec l'idée d'une arrestation toujours possible dès leurs premières années. C'est évidemment quelque chose qui ne les a jamais quittés, qui ne les a jamais abandonnés, même s'ils ont été capables de force, de résilience, de construire des familles, de mener des vies qui étaient souvent des vies d'une grande richesse, d'une grande intensité. Et en parlant avec leur famille, en parlant avec leurs proches, il y a l'idée que les derniers mois qu'ils ont vécu ont souvent été des mois dont la difficulté était intensifiée par le sentiment que les choses reviennent, les choses se répètent et cette Shoah n'est jamais en réalité véritablement passée. Et les persécutions dont ils ont été victimes ou qu'ils ont ressenties, qui étaient dans l'atmosphère au moment de leurs premières années, sont de nouveau dans l'air et impossible pour beaucoup d'entre eux, au moment de leur dernier jour, leur dernier souffle, de ne pas avoir, en plus de ces images d'horreur liées à l'enfance, les échos de ce qui s'est passé le 7 octobre et quelque chose de bien présent. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que dans la conscience juive, il y a quelque chose qui est toujours présent et quelque chose qui ne part jamais et qui est lié à ce souvenir de la Shoah et qui se voit réactivé. Alors, évidemment, dans des formes différentes, oui, avec des modes qui sont différents, mais qui vient parler à quelque chose qui est lié à notre cerveau reptilien.
Et d'ailleurs, monsieur le rabbin, l'une des otages qui a été libérée parmi les premières, c'est la jeune Mia, et qui a révélé ses impressions. Et le premier mot qu'elle a utilisé, c'est de dire « j'ai vécu la Shoah ». C'est-à-dire, c'est une jeune femme. Là, vous parliez des personnes âgées qui étaient enfants pendant la Shoah. Mais voilà que cette jeune femme de la jeune génération en Israël réutilise ce terme pour se l'approprier avec ce qui s'est passé. Comme quoi, c'est un terme qui ne disparaît pas, qui ne disparaîtra pas.
C'est un terme qui ne disparaîtra pas, qui préexistait. En soi, Shoah, ça veut dire la catastrophe. Et c'est vrai que dans le monde juif, jusque-là, jusqu'au moment où le mot de Shoah a été adopté, on avait le mot de Khurban. Le mot de Khurban qui signifie la destruction et qui avait été jusque-là utilisé pour décrire ce qu'avait été la destruction du premier, du second temple, l'écrasement des révoltes juives dans l'Antiquité. Et c'est vrai qu'on a vu pour désigner la catastrophe dans les dernières décennies le mot de Shoah prendre la place de celui de Khurban. Et il y a eu d'ailleurs toute une série de discussions entre savants, entre penseurs, entre philosophes juifs, quant au fait de savoir quel était le mot le plus approprié. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est la manière dont Claude Lanzmann a justifié le choix de ce terme de Shoah pour le film éponyme, pour le grand film, la grande fresque qu'il avait réalisé. Et c'était le fait de dire que lui n'était pas hébréophone, et que lui ne comprenait pas le mot en hébreu, et que ça désignait quelque chose d'étrange, quelque chose de bizarre, quelque chose qui pouvait lui échapper même en termes de compréhension. Et c'est pour cela aussi que le mot avait été gardé, et que Shoah était entré, même s'il préexistait évidemment à la réalisation de ce film, et que l'emploi avait été utilisé dès avant, notamment en Israël, évidemment. Donc avec l'idée de Shoah, on a l'idée de catastrophe.
Oui, et puis j'ajouterais que le monde non-juif l'utilise facilement aussi. Aujourd'hui, c'est une façon aussi de conserver la mémoire aussi dans le monde non juif.
Et c'est important que ce soit ce terme qui soit utilisé et non pas celui qu'on a pu trouver en d'autres moments et qui va être très populaire, par exemple, dans le monde anglo-saxon et qui est celui d'Holocauste.
Oui.
L'Holocauste, c'est un sacrifice. L'Holocauste, c'est une offrande faite par les hommes à leur créateur. Et à aucun moment, évidemment, dans la Shoah ou dans n'importe quel massacre qui a pu avoir lieu au travers de l'histoire, on avait un sacrifice, on avait une offrande, on avait quelque chose qui était censé grandir l'homme et le connecter à Dieu. Mais au contraire, on avait dans tous ces crimes, dans tous ces massacres, une désacralisation véritablement de l'image divine qui en chaque être humain, et une désacralisation de l'image divine, bien sûr, chez les victimes, mais aussi chez les bourreaux qui se conduisent d'une manière dont aucun animal ne se conduirait, d'une manière qui vient tuer l'humanité en premier lieu de ceux qui commettent ces crimes et qui s'excluent d'une certaine manière de l'espèce humaine.
Alors, comment, peut-être ma dernière question, comment on peut t'expliquer, même si je sais qu'il n'y a pas de réponse, mais comment on peut t'expliquer ce niveau de haine, cette volonté de destruction, destruction mais pas que, une destruction mais en faisant du mal, hein, avec un massacre en bout de chaîne d'actes
barbares. La grande question, vous savez, moi j'ai tendance à dire... s'il doit y avoir une explication, une compréhension du phénomène d'antisémitisme, en réalité, est-ce que c'est vraiment aux Juifs de chercher à comprendre, c'est vraiment aux Juifs de définir pourquoi est-ce qu'on trouve des gens qui nous détestent et qui sont animés par cette passion criminelle? C'est plutôt aux bourreaux qu'il faudrait poser la question. Comment est-ce que vous pouvez agir de cette manière-là? On a parlé du mot Shoah en hébreu. Vous savez, en hébreu, il y a un mot qui désigne la haine, Sina, et que les sages ont tendance à rapprocher du nom de Sinaï. Et donc, on a l'idée que dans ce qui s'est joué au Sinaï, l'idée qu'en tant qu'être humain, on obéit à une règle, à une loi qui va être une loi morale, qui ne va pas être la loi de la nature, qui ne va pas être la simple duplication de la loi du plus fort. On a quelque chose ici, on a une exigence en termes d'humanité, on a une exigence en termes d'attente humaine qui a créé une grande colère chez tous ceux qui sont animés au contraire par des pulsions mortifères et destructrices.
Merci monsieur le rabbin, Shabbat Shalom.
Shabbat
à vous.
Shalom.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vous écoutez Radio J.
Radio J. Il est 9h30, vous écoutez Radio J et c'est l'heure du rappel des titres présentés par Etanit Belaïch. Etanit, bonjour.
Bonjour Léa, bonjour à tous. Le kibboutz de Be'eri annonce la mort d'un otage en captivité, Dror Or. Il a été tué par le Hamas dès son kidnapping le 7 octobre. Son corps est donc toujours détenu à Gaza en ce 210e jour de guerre. 8 soldats syriens ont été blessés dans une frappe aérienne attribuée à Israël dans la banlieue de Damas hier soir. Selon la chaîne saoudienne Al-Adat, cette frappe visait un avant-poste du Hezbollah. Le Hezbollah qui a également été ciblé hier soir par Tzal dans le sud du Liban après que des terroristes aient été détectés dans des bâtiments militaires du groupe dans la région d'Aïta al-Shab. Les milices pro-iraniennes en Irak affirment de leur côté avoir lancé hier un missile de croisière sur Tel Aviv, une information non commentée par l'État hébreu pour le moment. La Turquie a suspendu toutes ses relations commerciales avec l'État hébreu hier. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères a comparé le président turc à un dictateur. Erdogan bloque les importations et les exportations israéliennes. C'est ainsi que se comporte un dictateur, a déclaré Israël Katz sur le réseau social X. La mobilisation pro-palestinienne continue de faire des remous outre-Atlantique. Au moins 2100 personnes ont été arrêtées à travers tous les États-Unis ces deux dernières semaines, d'après un décompte de la chaîne américaine NBC. En France, la direction de Sciences Po Paris a décidé la fermeture de ses principaux locaux aujourd'hui en raison d'une nouvelle occupation par quelques dizaines d'étudiants mobilisés pour Gaza. Le gouvernement redouble de vigilance face aux actions anti-israéliennes sur les campus français. Le projet de loi relatif au développement de l'offre de logements abordables est présenté en Conseil des ministres. Le texte vise à apporter des réponses à la crise du secteur avec une réforme en profondeur du logement social où vivent 10 millions de personnes dans le pays. Enfin, attention, il ne vous reste que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes le 9 juin prochain. L'inscription en ligne n'étant plus possible, il vous faut désormais vous inscrire auprès de votre mairie avant ce soir si ce n'est pas déjà fait.
Merci Etanit, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet.
Radio J. Le 9-10, Léa Moscona.
Allez, restez avec nous, on va marquer une petite pause dans un instant, c'est BT Avon et on vous dit tout sur la Hala.
Radio J. Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10, le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10, uniquement sur Radio J.
Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le Mémorial de la Shoah, Judaïsme en Mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le Consistoire sous l'égide de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Vous
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière.
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine. Grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org. MDA-France.org.
Radio J.
Le 9-10. Le 9-10. Léa Moscona.
Et c'est BT Avon, l'heure de BT Avon avec Mag en cuisine. Elle est avec nous ce matin. Bonjour Magali.
Bonjour Léa, vous allez bien?
Mais ça va bien et vous-même?
Super,
bien. Bah, vous êtes dans les fourneaux là en ce moment parce qu'il y a quand même une coutume, si j'ose dire. Quelle est cette coutume en ce moment?
Eh ben, en ce moment, on va faire les challotes. Et en fait, c'est le deuxième Shabbat du Homer, donc celui après Pessah. Ouais. On a la coutume de faire nos challotes en forme de clé.
Eh oui, en forme de clé. Si, alors, on va donner la raison de cette forme tout à l'heure. Mais si je reste sur la recette des challotes, si je vous dis que c'est synonyme de brioche, est-ce que vous êtes d'accord, vous, la spécialiste de la pâtisserie, ou bien vous me dites, ah non, pas du tout, Léa. Alors, pas du tout.
Moi, personnellement, je trouve pas. Oui, c'est vrai que c'est moelleux comme une brioche, mais le goût d'une brioche, c'est vraiment une brioche. Le goût des challotes, c'est vraiment le goût de Shabbat.
Ça veut dire que votre challah n'est pas du tout sucré, parce que la brioche.
Ah, si, si, quand même.
Ah, elle l'est.
C'est quand même un peu sucré, évidemment, mais. Une brioche, c'est avec du beurre, c'est avec beaucoup d'œufs.
Oui.
Vous voyez, la challah, c'est le pain de Shabbat. Quoi.
Voilà, alors. C'est tout. Il y en a pas d'autres. C'est unique.
Exactement.
C'est bon. Bon alors super. Alors on va passer à la recette. Est-ce que tout comme parfois, hein, des plats qui sont connus, comme je ne sais pas le couscous, n'importe lequel, est-ce qu'il y a des recettes de challah ou bien il y a vraiment une recette qui prime au-dessus de toutes?
Non, je suis d'accord avec vous. Il y a chacune a sa recette de challah. Elles sont toutes différentes.
Ouais.
Après, on reste quand même sur, comme vous dites, le couscous avec les mêmes bases pour tout le monde.
Ouais.
Mais c'est vrai que d'une maison à l'autre, la challah est différente.
Et donc, c'est
même en ayant les mêmes recettes. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est fou. Hein. Et puis bon, la meilleure, c'est celle de la maman, j'imagine. Hein.
Exactement. Ouais.
En tout cas, on va écouter la vôtre.
Alors, pour la mienne, et elle est super connue et je suis très fière parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui font cette recette et je les remercie d'ailleurs, celles qui m'écoutent.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, on part sur 2 kilos de farine, 40 grammes de levure sèche ou 2 cubes de levure.
Pardon, combien de grammes? On n'a pas très bien entendu. Combien de grammes?
40 grammes de levure sèche.
D'accord.
Ou 2 cubes de levure fraîche, sèche ou fraîche. 200 grammes de sucre, 750 grammes d'eau tiède.
Mm-hmm.
Il faut 4 œufs. 250 grammes d'huile et 40 grammes de sel.
Ok.
Alors, c'est simple. La première chose qu'on fait, c'est un petit levain. Donc, on va mélanger la levure, le sucre et l'eau. On mélange et on attend à peu près une quinzaine de minutes que, vous savez, ça forme une espèce de mousse.
Oui,
ça permet en fait d'avoir une mie qui va être très... Très aérée.
Oui. Et ça, donc c'est une mousse, mais un peu vivante. Hein. Ça...
Exactement. La levure, c'est vivant de toute façon.
Oui,
donc,
c'est vrai.
On attend une quinzaine de minutes. Vous allez
d'accord.
voir que ça va
gonfler.
C'est pour ça qu'on utilise de l'eau tiède d'ailleurs. Parce que si
d'accord.
on utilise de l'eau froide, ça va moins mousser.
Oui.
Et si on utilise de l'eau trop chaude, ça va tuer votre levure.
Aïe.
Donc j'insiste sur l'eau tiède.
L'eau tiède, d'accord.
Voilà, une fois que ça a moussé, on va mettre dans son robot, ou on peut même le faire à la main sans aucun problème, la farine qu'on aura tamisée.
Mmh.
Ensuite, on ajoute 4 œufs, on ajoute les 250 grammes d'huile, on commence à mélanger, et le levain, donc la levure qu'on a fait mousser, vous allez venir la remuer avant de l'incorporer à votre farine.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que le sucre, on a mis le sucre, vous savez, à l'intérieur,
oui.
et le sucre tombe au fond de votre de votre bol. Donc nous, on veut vraiment avoir tous les ingrédients. Donc on remue le sucre et on va rajouter au fur et à mesure ce levain à votre préparation de farine.
De farine.
Donc vous allez mélanger et plus vous allez mélanger, plus vous allez voir votre pâte se former.
Ouais, c'est ça.
Et en dernier, on ajoute le sel. on ajoute toujours le sel en dernier pour quand on utilise de la levure.
40 grammes, c'est ça, 40 grammes. C'est pas mal hein, quand même, 40 grammes de sel. Hein. Non
ah oui, c'est beaucoup. Bah, en c'est fait, beaucoup. Pour 1 kg de farine, ouais. Il faut à chaque fois 20 grammes de sel
d'accord.
dans n'importe quelle recette.
Mmh,
donc, on mélange bien. Une fois que votre pâte elle est bien pétrie, donc dites-vous que moi, au robot, je la pétris entre 8 à 10 minutes.
Oh
donc,
là, c'est énorme. Ah
c'est,
oui.
C'est long. C'est long, mais plus vous avez une pâte pétrie, plus elle va être aérée, plus il va avoir... elle va être alvéolée, vous savez.
Oui, c'est ça.
Bah, voilà, briochée en fait. Hein.
Et voilà, absolument. Il y aura les bulles, il y aura les trous exactement. Dans la mie. Hein. Oui, on a tous en tête hein, l'image du boulanger qui pétrit.
Exactement.
On dirait que c'est. J'imagine que ça devait être très dur comme ça à la main.
C'est pour ça que je vous dis que moi, je la pétris 8 minutes au robot. Donc, à la main, il faut bien la pétrir le double.
Hein. Ouais. Magali, c'est ça le secret de cette recette.
Ah oui. Pour qu'elle soit bien briochée, il faut une pâte bien pétrie, même légèrement collante, parce que plus vous allez pétrir, plus votre pâte elle va chauffer, plus elle va coller, et c'est pas grave, c'est normal. Donc une fois que vous avez une belle pâte bien lisse, etc., vous la remettez dans votre bol et on va la laisser lever pendant une heure. Donc soit près d'une zone de chaleur, donc en général on la fait le vendredi, donc Shabbat, vous pouvez la mettre à côté de la plaque de cuisson, ou même une autre astuce, moi je la mets aussi au four, en mode étuve à 30 degrés. Donc, si vous avez un four, vous la mettez à... Enfin, si vous avez un four, on a tout un four.
Oui,
vous la mettez à 30 degrés dans votre four et vous allez voir que ça va lever beaucoup plus vite.
Ah, carrément.
D'accord.
Et donc, combien de temps vous avez dit pour la faire?
Une heure, oui. Ça va, vous allez voir, elle va doubler de volume.
Mais quand je vous écoute parler, je me dis, il faut le vouloir. Hein, il faut le vouloir, cette rala, il faut l'aimer. Et maintenant, on comprend comment on doit la respecter, cette rala, parce que ça demande énormément de travail.
C'est vrai. Et même, une autre vue que je vous ai, là, je vous explique. Moi, par exemple, j'ai fait ma pâte à rala hier soir.
Oui.
Et là, elle est en train de lever au frigidaire. Donc, je l'ai bien filmée. Je l'ai laissée au frigidaire toute la nuit. Il n'y a aucun problème de s'avancer le jeudi soir et de les former le lendemain. Ça va lever, en fait, au frigidaire, mais beaucoup plus lentement.
C'est pour
ça qu'elle peut rester toute la nuit au frigidaire. Mm-hmm. Donc, une fois qu'elle a levé, vous allez dégazer cette pâte. Mm-hmm. Donc, pour les 2 kg de farine, on fait à frachatrala, puisqu'à partir de 1,6 kg, on doit faire à frachatrala. Mm-hmm. Et ensuite, on va former nos pâtons de rala. Voilà. Donc, je fais à peu près des pâtons, moi, de 80 grammes.
Ouais.
Quand je forme une rala, je les forme en général par 4.
Ouais.
Et on les presse. Une fois qu'elles sont pressées, on va les laisser relever un petit peu, qu'elles regonflent.
Oui.
Voilà. Et après, on va les badigeonner d'œufs. On va mettre du sésame ou ce que vous souhaitez dessus. Mmh. Et ça part dans un four qui est chaud à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend, voilà, la couleur que vous voulez. Vous mettez un peu plus.
Voilà, la cuisson, elle paraît courte, hein, après tout ce travail énorme. Alors, quand vous tressez à 3 branches ou à 4 branches, vous ?
En général, moi, 4 branches.
4 branches ! Waouh, bravo !
Ça,
je ne sais même pas le faire.
Et d'ailleurs, il y a les vidéos sur mon compte.
C'est ce que j'allais vous demander. Magali, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, on va sur Mag en cuisine et on peut le faire en même temps avec vous, comme ça. Hop,
voilà,
bon, mais c'est magnifique. Et après, le goût est merveilleux. Alors là, par contre, il y a la petite variante, hein, c'est en forme de clé. Ouh là là, comment est-ce qu'on fait ça alors?
Ah ben, bah, en forme de clé, vous pouvez faire... Enfin, vraiment, c'est de l'art, hein, la cuisine.
Donc
là, avec de la pâte à challah, c'est comme de la pâte à modeler. Hein, même, vous pouvez mettre à contribution vos enfants. On fait des boules, on fait une seule challah, par exemple, avec 3 branches. Et puis après, on va mettre... on va mettre des jolies boules ou des jolies sangles. Vraiment, ça, après, il y a une multitude du moment que ça ressemble à une clé.
Oui.
Et vous savez pourquoi on fait en forme de clé ce Shabbat? Donc, le Shabbat après Pessah, c'est donc le deuxième Shabbat du Homer. Et on dit que chaque jour, il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et donc, en référence à ça, on a coutume de faire la challah en forme de clé.
On demande tout ce qu'on désire, que
toutes nos bénédictions se réalisent, et surtout pour cette année, plus que jamais, on souhaite la délivrance de nos otages.
Absolument. Donc on va faire vraiment ces ralotes en forme de clé. Je crois qu'on a vraiment beaucoup à demander cette année. On espère que cette clé en forme de challah va nous ouvrir absolument et nous libérer nos otages. Absolument. Merci beaucoup, beaucoup Magali pour cette jolie recette avec aussi cette signification. On vous souhaite Shabbat Shalom et puis bonne dégustation hein, de vos halotes. On pourra aller les voir sur Mag en cuisine. Hein. C'est votre Insta. Merci infiniment. Shabbat Shalom à vous.
Léa Moscona.
Radio J. Et c'est l'heure du commentaire de la paracha et nous sommes en ligne avec le rabbin Mendel Nissenbaum. Bonjour monsieur le rabbin.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Vous êtes rabbin de la communauté de Saint-Quentin en Yvelines. Alors monsieur le rabbin, cette semaine nous allons lire la paracha à Aremot. Je ne sais pas si je prononce bien, je sais qu'il y a plusieurs prononciations à Aremot. En tout cas, c'est une paracha qui nous explique, qui nous parle de l'entrée du grand prêtre Aaron dans le Saint des Saints. Et ce qui nous est décrit, c'est énormément de préparatifs. Les ablutions, l'envoi d'un bouc émissaire, les sacrifices, l'encens. Quelle est la raison de l'ensemble de tous ces préparatifs avant l'entrée de Aaron dans le Saint des Saints?
Alors, tout à fait, la paracha de cette semaine à Aremot, qui veut dire d'ailleurs après la mort des deux fils d'Aaron. Pourquoi je reprends le nom de la paracha? Parce que c'est justement cela qui répondra à votre question. La Torah commence, et nous sommes après la mort des deux fils d'Aaron, et Dieu dit, préviens Aaron, faites attention de ne pas entrer dans le Saint des Saints à n'importe quel moment et sans préparation. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la mort et la tragédie qu'on a déjà racontée, celle de la mort des deux fils d'Aaron, le premier jour d'inauguration du temple, de service, etc., et avec cette entrée dans le Saint des Saints. Et si nous regardons le commentaire de Rashi donne une parabole qui est, c'est comme un médecin qui est parti voir une personne et qui lui a dit, avec ta maladie, il faut faire attention de ne pas dormir dans des endroits humides, ne pas prendre des choses froides, mais un second prévient davantage en disant, puisque si tu ne fais pas attention, tu vas mourir comme les précédents sont morts. C'est-à-dire, ici, Aaron est prévenu en lui disant, tes enfants ont voulu trop se rapprocher de Dieu, ont voulu être trop proches de Dieu, et ont reçu cette éducation d'ailleurs de leur père. Et donc on soupçonne bien Aaron de vouloir bien faire la même chose, et de se rapprocher de Dieu sans garder son âme sur terre. Et on prévient Aaron, fais attention au Saint des Saints, fais attention aux préparatifs et à la préparation, comment entrer dans le Saint des Saints. Et en effet, entrer dans le Saint des Saints demande une préparation, pas uniquement vis-à-vis d'Aaron, mais vis-à-vis du peuple juif tout entier, puisqu'il est là pour représenter le peuple et demander le pardon du peuple tout entier en ce jour de Kippour.
Et il est le seul, n'est-ce pas? Il est le seul à pouvoir entrer dans ce lieu saint. Est-ce qu'on a des informations sur ce qui s'y passe à l'intérieur?
Alors, en effet, il est le seul à pouvoir y pénétrer une fois par an, qui est le jour de Kippour. Et à l'intérieur, il va tout simplement déposer un encensoir entre les chérubins, puisque dans le Saint des Saints, rappelons-nous, s'y trouve l'Arche Sainte, où à l'intérieur il y a les débris des premières tables, les secondes tables, et par-dessus ce couvercle de l'Arche Sainte avec les chérubins. Les chérubins qui représentent le lien que le peuple a avec Dieu. Il doit déposer un encensoir et un des signes que Dieu avait accepté le pardon et les prières du peuple juif et avait exaucé toutes ses demandes, c'était qu'un nuage de fumée recouvrait toute l'enceinte du Saint des Saints. Mmh. Et à ce moment-là, il faisait réellement une prière très très courte où il demandait à Dieu des bénédictions pour tout le peuple juif. Mais réellement, d'ailleurs pour la suite, le jour de la prière de Kippour, une prière vraiment relativement courte. Pourquoi? Pour ne pas inquiéter ses frères qui se l'attendent à l'éclair du temps, puisque tout le peuple regardait, voulait voir le grand prêtre qui sortait en bonne santé de ce Saint des Saints, qui était également un signe que Dieu avait accepté toutes ses prières, c'est-à-dire qu'il était sorti et qu'il avait pu garder des bonnes pensées et penser uniquement à ses prières, puisque dans un endroit aussi sacré, interdit d'avoir de pensées profanes, évidemment.
Alors, en vous écoutant, je me dis que finalement, ce qui est plus important, en tout cas, qui a plus d'importance que l'entrée, c'est peut-être la sortie, hein, finalement. C'est la sortie de Aaron du lieu saint.
Tout à fait, parce qu'il faut entrer en paix, c'est vrai, il faut entrer, avoir, être prêt, mais il faut pouvoir aussi y sortir. Oui. Et ça, c'était quelque chose que tout le peuple attendait.
Et la sortie, le fait de sortir, ça devait en faire bénéficier toute la communauté.
Tout à fait, parce que cela faisait partie du service de Kippour, il avait encore des sacrifices à apporter, il avait encore des choses à faire. Et puis d'ailleurs, cette sortie qui était accompagnée, cette sortie de Kippour d'ailleurs, accompagnée de grand jour, le grand prêtre était accompagné après chez lui avec tout le peuple et organisé une grande fête le soir, parce qu'il était sorti du Saint-Destin et qui était un signe que Dieu avait écouté ses prières.
Alors, dans la suite de la paracha, on aborde l'importance de la consommation de viande, mais attention, une viande abattue dans l'enceinte du temple, hein, donc cette viande cachère. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur Larba, en quoi cette règle de cacheroute apparaît comme essentielle? On n'a pas le droit donc de consommer une viande qui a été abattue en dehors d'un lieu saint, enfin de ce lieu saint.
Alors il s'agit ici de plusieurs choses. Et quand vous mentionnez, on n'a pas le droit de consommer une viande en dehors de ce lieu saint, c'est qu'on peut bien sûr consommer une viande comme on le fait aujourd'hui.
Oui.
Mais la viande qui est destinée au sacrifice peut être consommée uniquement par les kohanim, par les prêtres, et à l'intérieur du temple. Il fallait faire attention, extrêmement attention, de ne pas la consommer à l'extérieur. De ne pas la faire sortir. Il fallait faire également extrêmement attention aux pensées à avoir au moment du sacrifice de ces bêtes, ou même quand il abattait cette bête. C'est-à-dire que dans le sacrifice, on n'a pas uniquement approché la bête devant Dieu sur l'autel, mais c'est également toute la préparation, depuis l'abattage de la bête, à l'intérieur du temple, et jusqu'à la fin, la consommation de cette bête, tout devait être fait avec des pensées saines, devait être fait dans le service de Dieu. Absolue. Ce qui est la beauté en fait de ces sacrifices, c'est pas uniquement prendre un morceau de viande et l'approcher sur un autel, mais c'est tout ce qui vient aussi autour.
Oui, qu'est-ce que ça nous dit finalement dans le judaïsme du rapport qu'on a à la nourriture, et est-ce que c'est lié au fait de devoir mettre une kippa avant d'absorber toute nourriture?
C'est-à-dire que manger, tout être vivant mange. Mais il y a une manière de manger, c'est-à-dire c'est élevé. Aujourd'hui, dans la Torah nous enseigne que manger, c'est-à-dire qu'on se nourrit. On nourrit notre corps et on nourrit également notre âme. On nourrit nos forces pour le service de Dieu. À partir du moment où on mange d'une manière saine, dans tous les sens du terme, c'est là où ça fait partie de notre service de Dieu, c'est là où ça fait partie de donner de la force à notre corps et de l'énergie pour pouvoir continuer à faire notre travail sur Terre.
Et c'est lié au port de la kippa?
Alors le port de la kippa qui nous rappelle tout simplement que nous avons un Dieu sur nous, donc c'est évidemment important au moment où l'on mange, puisque quand on mange, on ne mange pas juste pour manger, mais on mange également pour servir Dieu.
Merci infiniment monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Mendel Nissenbaum, rabbin de la communauté de Saint-Quentin en Yvelines. Très bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom à vous.
Shabbat shalom à tous.
Léa Moscona.
Radio J. Merci de votre fidélité au programme de Radio J. Shabbat Shalom à tous. Je vous rappelle les horaires de Shabbat ce soir à 20h51 pour l'entrée et demain pour la sortie à Paris, évidemment, 22h06. Restez avec nous. On va marquer une petite pause dans un instant et puis à 10h, dans quelques minutes, ce sera le journal présenté par Etanit Belaïch. Et puis juste derrière, l'émission Affaires publiques. L'émission Affaires publiques avec pour invité Patrick Haddad, maire de Sarcelles.
De l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h, à tout à l'heure.
Radio J.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Restez informés.